vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. Il y a des passions qui vous brûlent de l'intérieur, elles tiennent particulièrement chaud. Elles donnent de l'élan, elles nous consument parfois. En tout cas, elles nous prennent tout entier. Et on garde l'espoir que ça ne nous quitte jamais. Vous pensez à l'amour, bien sûr. Mais parfois, cette vibration que je voudrais pouvoir imaginer avec vous, c'est celle d'une note. Une note qui trouve toujours une résonance, même quand tout semble s'effacer autour. Professeur de percussion, directeur artistique du festival Atelier Jazz à Mélèze-du-Maine, Jeff Landau vit le jazz comme une pulsation vitale et croyez-moi, c'est contagieux. Une chose que l'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que Jeff voit avec ses oreilles et il entend avec le cœur. C'est le grand format de la JT qui commence. Je suis Margot et aujourd'hui, vendredi, on va parler de passion, d'obstacles et de ce qu'est le jazz, mais en voyant plus grand, comme Jeff l'a fait, en faisant venir ici ses idoles en Mayenne pour le partager avec tous les curieux et passionnés comme lui, avec toujours l'idée que cette découverte reste accessible à tous. C'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée. Je voudrais que vous tendiez l'oreille pour ce moment que l'on passe avec Jeff Landau.
Je m'appelle Jeff Landau, je suis musicien, professeur de percussion et puis j'ai aussi enseigné le jazz sur l'école de musique de Mélèze-du-Maine et sur le pôle de Bonchamp aussi au conservatoire pendant 15 ans. Un amoureux de la musique de jazz, parce que j'en ai la direction artistique depuis sa création. Voilà, pour je suis papa aussi d'un petit garçon et marié. Voilà pour faire court pour la présentation.
Alors Jeff, si l'on devait revenir sur... votre toute première rencontre avec le jazz, quel moment précis vous vient en tête ?
C'est grâce à Michel Massé, qui était professeur de percussion au Conservatoire de Laval, que moi j'ai pu avoir en cours depuis l'âge de 13-14 ans. J'étais en quatrième quand j'ai commencé à travailler avec lui. Et comme lui, il était un fada de jazz, entre guillemets, et vibraphoniste. Donc c'est lui qui a même ramené la technique 4 baguettes qu'on utilise en vibraphone des États-Unis. Lui, dans ses cours, il a intégré forcément les musiques de jazz. Donc c'est comme ça que j'ai pu pratiquer le vibraphone jazz, ou apprendre la technique et les harmonies, etc. etc. Et à la fois aussi des amis que j'ai rencontrés en stage, quand on partait en Allemagne ou on faisait des stages, des rencontres avec le conservatoire de Laval, avec François-Marie Texier, l'ancien directeur du conservatoire, qui était jazzman aussi et qui sortait le saxophone quand on était gamin avec dans les stages et il venait jouer avec nous, donc on était super super heureux. Et puis Paul Faure aussi, qui est une figure incontournable du jazz en Mayenne. J'ai participé à ses ateliers de jazz aussi dans le temps au conservatoire de Laval. Donc là, ces trois personnes là ont été des personnes importantes pour moi pour me faire découvrir cette musique là et puis c'est vrai qu'avec les copains, nous, lieu d'aller en boîte de nuit le samedi soir, on squattait une salle et puis on jouait de la musique de jazz, on essayait de repiquer les thèmes, les chorus, et puis on passait notre soirée à faire de la musique. Donc c'était vraiment les premiers c'est-à-dire que moi, quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais pas de la musique de variété ou du rock. Nous, avec les copains, on allait voir que des concerts de jazz, on écoutait que du jazz. En fin de compte, c'était vraiment notre musique à nous, entre guillemets. Et ce qui a fait naître, en fin de compte, cette passion de cette musique que j'ai toujours aujourd'hui. Et à travers le festival, on essaie toujours de défendre cette musique-là en milieu rural, à Mélèze-du-Maine.
Et alors, qu'est-ce que ça représente, le jazz, au-delà de la musique ? Est-ce qu'il y a des aspects de cette culture-là, peut-être, qui résonnent particulièrement dans vos valeurs ?
Le jazz, en fin de compte, c'est une sorte de lutte aussi, entre guillemets. Hein. Ça a été beaucoup ça aux États-Unis. Il y a aussi une forme de liberté, parce que même s'il y a des règles à suivre quand on improvise, il peut y avoir des contraintes ou XY, mais il y a une certaine liberté dans ce qu'on a envie de jouer. Un thème, on peut l'exposer de la façon dont on veut. On n'est pas obligé de forcément respecter vraiment une blanche ou deux croches. Et après, il y a des chorus. Donc là, on exprime ce qu'on a envie d'exprimer aussi selon l'ambiance en salle ou savoir comment on se sent aussi à ce moment-là, dans ces cas-là, l'humeur, entre guillemets. Donc il y a ce côté liberté, moi, qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, c'est les jazzmen, c'est aussi des gens qui sont techniquement qui sont des musiciens fabuleux. Des créateurs, c'est-à-dire qu'ils créent en direct leur musique, quoi. Donc ça c'est aussi quelque chose de fantastique. Et puis c'est plein de belles rencontres, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'avais 13-14 ans, j'ai rencontré plein de copains qui étaient amoureux de cette musique-là. On avait nos idoles à l'époque, et puis avec le festival, les idoles, j'ai réussi à les faire venir à Mélèze-du-Maine. Donc c'est des belles rencontres humaines et musicales aussi, quoi. Donc ça fait partie de ma vie, et des fois ça m'a peut-être sauvé la vie.
Vous nous parlez du festival Atelier Jazz, c'est vous qui l'avez créé. Est-ce que vous pouvez nous raconter le tout début de la création de ce festival ?
Eh ben, il s'est mis en place un verre à la main. Comme quoi, de prendre un godet, des fois, ça peut servir à quelque chose. J'étais prof à l'école de musique, mais j'avais pas d'enfant là-bas. Mais le directeur me dit, tiens, après la répétition de l'orchestre, il y a l'assemblée générale de l'association des parents d'élèves, si tu veux venir. Et donc, il y a toujours un godet à la fin, donc bah, j'y vais. Effectivement, il y a un godet à la fin. Et puis, je rencontre M. Patrick Marie-Vignard, qui était adjoint du maire de Mélédumène à l'époque, d'André Bourdet. Et puis, il me dit, bah, vous êtes le fils en dos, vous donnez des cours là, parce que là, on est de Mélédumène, il connaissait un peu mes parents. Et puis je dis bah oui, et puis on parle un petit peu, puis je dis tiens, moi j'ai un projet que j'aimerais bien monter sur Mel et du Maine, je sais pas si la mairie pourrait nous donner un petit coup de main pour monter le projet. Et puis je lui expose voilà, le fait de pouvoir créer une rencontre des ateliers de jazz, parce que je m'étais toujours dit moi dans ma tête, ça faisait quelques années que je pensais à ça, c'est que en tant que prof, nous on se rencontrait à la fin des concerts ou dans les concerts. Et je m'étais fait la réflexion, je dis tiens, nous en tant que prof on se rencontre, mais nos élèves en fin de compte ils se rencontrent jamais, ils s'écoutent pas les uns les autres. Et c'est comme ça qu'était venu un peu dans l'esprit de créer cette rencontre des ateliers de jazz. Donc je propose à Patrick Marie-Vignard. Puis je lui dis, bah, si on a un peu d'argent, on pourrait inviter en seconde partie des musiciens professionnels et créer vraiment une rencontre de jazz. C'est pour ça qu'il porte le nom Festival Atelier Jazz. Et il me dit, c'est peut-être une idée qui peut nous intéresser. C'est avec le maire de Malais, en 98, on cherche un événement pour fêter les 10 ans de la salle socioculturelle. Donc il me dit, j'en parle au maire et puis je reviens vers vous. Et puis il m'a rappelé une semaine après pour me dire, on y va, on crée. Alors moi, j'avais appelé ça une rencontre. Des ateliers. Lui, il m'a dit, on va plutôt appeler ça festival. Et puis, c'est là qu'on a mis Festival Atelier Jazz. Et c'est comme ça qu'un verre à la main, ce festival, il est né. Et ça nous a permis, là, dès la première année, sur 3 jours à l'époque, de créer des rencontres des ateliers, de les faire jouer en première partie de musiciens professionnels. Il y a eu une grosse locomotive qu'on appelait qui s'appelle toujours le trio Romano Savis Texier, qui était venu faire notre clôture. Donc là, moi, c'était des idoles, ces gens-là. Donc, les faire venir à Malais, c'était quelque chose. À l'époque, on faisait une création. C'était Pierrot Bobard, François-Marie Texier et Paul Fort qui s'étaient occupés de la création, de réunir tous les ateliers qui avaient participé au festival et de jouer avec le trio Romano Savis Texier à la clôture du festival. Et c'est ce qui fait la marque de fabrique aussi de ce festival, c'est qu'il y a un côté rencontre des musiciens professionnels et des amateurs. Il y a un côté très familial aussi qui plaît beaucoup aux musiciens parce que chez nous, il n'y a pas de service d'ordre. Hein, les artistes, ils viennent prendre un godet au bar avec tout le monde. Et c'est ça aussi, c'est l'interaction entre les professionnels, le public, la rencontre des musiciens. Et c'est ce qui fait le charme de ce festival et c'est ce qui fait qu'on est là encore 28 ans après. Et puis dans ce festival, il y a aussi des prises de risque dans la programmation. C'est-à-dire que si on faisait que du jazz manouche, c'est une musique qui est convenue entre guillemets, mais qui tombe bien dans les oreilles. Et nous, on a toujours eu dans la démarche de provoquer un peu les gens aussi. C'est-à-dire que quand on rentre dans la musique free jazz ou musique improvisée, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à écouter. C'est comme si on comparait du Beethoven avec du Pierre Boulez. Eh ben nous, on ne s'empêche pas de faire des musiques improvisées et du free jazz parce qu'on est là aussi en tant que festival pour défendre ces projets-là, montrer aux gens que c'est une musique qui existe. Et puis la démarche aussi de ce festival, c'est d'avoir un style de jazz différent à chaque concert. Et puis dans la renommée des musiciens, entre guillemets, il y a toujours des musiciens mayennais ou de la région à jouer sur ce festival. Ça me paraît important qu'on soit là aussi pour défendre les musiciens locaux. Parce qu'il y a des musiciens qui nous ont du talent et on se doit de leur offrir une scène et un public et une technique. Et puis de promouvoir leur projet. Depuis le début du festival, il y a toujours des musiciens mayennais à jouer sur ce festival. Et moi, ça me paraît important. Alors, et après, il y a des musiciens qu'on renommait national. Et puis après, des musiciens qu'on renommait international. On essaie toujours d'avoir une ou deux grosses locomotives aussi sur cet événement, entre guillemets.
Alors, vous nous l'avez dit, vous avez fait venir des idoles, des références pour vous dans le domaine du jazz. Il y a donc 27 éditions de passé. Est-ce qu'il y a des événements, des dates particulièrement marquantes, des rencontres dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui ?
Ah, c'est toujours difficile parce que tout chaque édition, c'est hyper compliqué. Il y en a quelques-unes. Hein. Didi Bridgewater qui est venu chez nous en 2004. Alors, c'était un peu un événement pour nous. On avait un peu peur de la faire venir parce que c'était la diva, elle est toujours, mais une diva du jazz qu'on avait essayé de tout soigner aux petits oignons comme on fait d'habitude. Hein. Et en fin de compte, elle a été adorable comme tout. Elle a même fini à 4h30 du matin avec nous, nettoyer les verres au bar avec nous. Donc elle est partie en faisant la bise à tout le monde, comme si on était de la famille. Donc ça, ça reste un grand moment. You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How you like that? You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door. You ain't nothing but an old hound dog, snooping round my door. You can wag that tail, baby, look cute all you want, but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen. Donc ça, c'est reste aussi un grand moment pour moi. Le trio ST, le Esbjørn Svensson Trio, qui est venu chez nous le 31 mai 2003. Voilà, ça, ça reste des grands moments. Après, on a eu des grands noms comme Max Stern l'année dernière, Mino Sinelu. Enfin, je pourrais citer Monty Alexander, John Scofield, enfin, Ibrahim Alouf aussi qui est venu chez nous en 2012. Donc c'est toujours des rencontres incroyables, quoi. Michel Portal, enfin, Richard Glenelow. Enfin, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois une belle aventure musicale, mais humaine aussi, parce que bon, ces gens-là, on les rencontre des fois assez succinctement, parce que des fois, ils repartent le lendemain à 6h du matin pour jouer à l'autre bout du monde, entre guillemets. Mais voilà, on a toujours des échanges, et puis quand ils ont un peu plus de temps, ben, on prend le temps de discuter ou de manger ensemble. Et voilà, moi, ces gens-là, c'était mes idoles quand j'avais 15 ans. Donc ça reste des super rencontres, et puis le fait de pouvoir aussi amener ces gens-là à Mélodie Humaine, parce que le truc improbable de faire venir Didier Bridgewater ou Monty Alexander ou Ibrahim Alouf à Mélodie Humaine, 2000 habitants ou 2800, je vais me faire tirer les oreilles si je dis pas le bon chiffre. Eh bien, c'était inattendu, c'est le truc improbable, et qu'on arrive à faire à Mélodie Humaine, quoi. Ces gens-là, ils font les plus grandes scènes du monde et ils viennent jouer à Mélodie Humaine. C'est vraiment un pari qui était, quand on a monté ça en 88, tout le monde nous disait, même au niveau du département, que ça ne marcherait jamais en Mayenne, que ça déjà intéresserait personne. Et ben 28 ans après, on est encore là, donc ça veut dire que ça intéresse quand même du monde. Donc on a réussi peut-être, entre guillemets, sans prétention, peut-être à éduquer un public aussi, parce que c'est une musique un peu méconnue. Et c'est vrai que dans la démarche, il y a aussi ça, c'est que sur 10 concerts, il y en a 3 payants et le reste est gratuit. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident à défendre cette démarche-là, hein, même par rapport à des gens qui sont dans l'association, dans le bureau. Il y a toujours dit, il faudrait faire tout grave, tout payant, ou faire un quatrième concert payant. Et moi, j'essaie toujours de défendre le fait que s'il y a la gratuité, ça permet aussi aux gens de venir découvrir. Et que peut-être qu'ils seraient peut-être pas venus à un concert payant, mais s'ils viennent à des concerts gratuits, qu'ils disent que ça leur plaît, ça les incite peut-être à venir à écouter d'autres concerts et peut-être des concerts payants. Si ça peut les inciter à aller voir d'autres concerts, d'autres festivals ou acheter des disques de jazz, la démarche, elle est là aussi. Il y a un côté un peu éducatif aussi, entre guillemets. C'est pas toujours évident à défendre cette démarche-là, mais elle est importante pour moi, c'est-à-dire d'avoir ce côté. Défendre cette musique-là à travers aussi ce festival. Et puis après, c'est-à-dire que si on fait plus de concerts payants, ça veut dire qu'on s'oblige aussi à changer peut-être la façon de faire dans la programmation. C'est-à-dire qu'on est moins libre, parce que s'il faut faire payant, c'est-à-dire que si je mets un concert free jazz à 15 euros, on va avoir 20 personnes. Et le but du jeu, c'est pas ça. Je préfère faire un concert free jazz gratuit et qu'il y ait 300 personnes dans la salle, parce que les gens vont venir découvrir, parce que c'est gratuit. Donc jusqu'ici, j'arrive à tenir le coup. J'espère que j'y arriverai jusqu'au bout. Mais tant que je suis là, moi, j'essaie vraiment de défendre ça parce que c'est important. Ça ne veut pas dire que le festival ne tourne pas si on fait que 3 concerts payants. C'est-à-dire que jusqu'ici, on arrive à s'en sortir. Et le but du jeu, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais Marcillac ou Jazz à Vienne, hein, même si on a fait des échanges avec Jazz à Vienne comme festival.
Alors, vous nous avez parlé de valeurs qui comptent particulièrement pour vous autour de ce festival. J'imagine qu'en 27 éditions, il y a peut-être eu des évolutions, des moments un peu plus compliqués où il y avait des défis à relever.
Oui, on n'était que sur 3 journées. À partir de 2000, on était sur 4. C'est vrai que le festival est là grossi. Maintenant, on est sur 7 journées. On est du samedi à l'autre samedi, toujours sur le week-end de l'Ascension. C'était plus facile à monter ce festival il y a 15 ans, quoi. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est dans une société où ça devient plus compliqué pour plein de choses, hein. Et ça a même administrativement tout ce qu'on nous demande maintenant à remplir comme dossier. Faut monter des dossiers de 30 pages des fois pour avoir une subvention de 500 euros. J'exagère un petit peu, mais c'est presque devenu ça. Alors ça n'empêche pas qu'on a la foi pour défendre ce bébé, entre guillemets. Donc on y va, on monte toujours nos dossiers. Mais c'est vrai que ça alourdit administrativement les choses et des fois ça devient très très lourd, quoi. C'est de plus en plus compliqué. Il faut aimer les emmerdes aussi, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des fois, on peut dire qu'on est abattu un peu par tout ce qui peut nous tomber dessus, les nouvelles lois, les machins, la sécurité, enfin, c'est plein de choses. Enfin, je dis ça, c'est pour tous les festivals pareil, hein, tous les organisateurs ou de n'importe quel événement, c'est devenu plus lourd et tout, hein. Mais après, quand on veut un festival qui fonctionne bien, on a fait 5800 personnes en 2024. Ça redonne la patate pour remonter un festival en 2025. Donc c'est vrai que moi j'étais que prof de musique au départ, ça m'a appris aussi plein de choses, hein, par contre, ce festival, hein, de rencontrer des gens, des marchés auprès de sponsors publics ou privés parce qu'il faut défendre le dossier, rencontrer des journalistes par exemple, là, apprendre à parler à un micro ou devant une caméra à la télé, négocier des contrats avec les agents, faire des réservations pour les trains, les avions, les hôtels. Donc c'est plein de belles choses, hein, mine de rien, même si c'est des fois un peu compliqué. Mais l'envie est toujours là de défendre ce beau projet.
C'est un langage sensible, un langage de l'émotion, de l'imaginaire, et on parlait de défis. Jeff, vous avez une maladie orpheline qui fait qu'aujourd'hui vous perdez la vue progressivement. J'imagine que tout ça vous fait appréhender la musique et ce projet même un peu autrement.
Moi j'ai cette maladie-là depuis que je suis né. Donc c'est une maladie qui s'appelle une rétine pigmentaire, qui est orpheline, dégénératrice, soutenue par le Téléthon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, donc... Il n'y a pas malheureusement pas assez de recherches de fait sur ce coup-là, entre guillemets. Même si je fais partie d'un protocole de recherche depuis 20-25 ans maintenant à l'hôpital des 15-20 à Paris, bon, on a découvert cette maladie-là, j'avais 6-7 ans. Mes parents, après, moi, ils ont toujours essayé de trouver des solutions, même si on n'a pas. C'est vrai qu'à l'âge de 7 ans, moi, par contre, j'ai fait du caisson hyperbare pendant presque 20 ans. Parce qu'il y avait un médecin, un professeur à Nancy qui s'appelle le professeur Algan, qui était persuadé qu'en oxygénant au maximum les tissus, la respiration, tout ça, avec des perfusions, moi je partais à l'hôpital de Nancy pendant 15 jours tout seul là-bas. Et je faisais 15 jours de, alors que je faisais 15 jours de caisson le matin, et l'après-midi, il y avait des, je me rappelle, des perfusions. Et à l'époque, il n'y avait pas des machins qui tenaient tout seul dans les veines. Là, alors, ces petites aiguilles, dès qu'on bougeait le bras, ça passait à côté. Bon, bref. Et moi, j'ai fait ça pendant 20 ans, pendant 15 jours tous les ans. Et puis après, quand j'ai rencontré le professeur Jean-Alain Sahel au 15-20 à Paris, c'est lui qui a fait monter l'Institut de la Vision à Paris. On le voit de régulièrement aussi au Téléthon, hein, ce professeur-là. Donc c'est lui qui me suit. C'est lui qui m'a dit, enfin, contre le caisson, ça n'avait pas été prouvé par A plus B que ce traitement-là fonctionnait. Donc on a arrêté ce traitement-là. Et puis, il y a eu des prises de médicaments ou de compléments alimentaires. Mais comme il n'y a pas de solution sur cette maladie, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Hein. Comme je suis musicien et que j'avais besoin de lire des partitions, même assez jeune, j'étais embêté pour lire des partitions. Donc moi, je suis rencontré des professeurs adorables qui m'ont aidé par rapport à ça. Donc moi, j'ai mémorisé vachement tout ce que je lisais en musique. Après, quand on fait les percussions, on joue aussi à quatre baguettes sur des instruments. Donc c'est sur les marimbas, les vibraphones. C'est ce que je ne peux plus faire maintenant, malheureusement, parce que c'est compliqué quand on n'y voit pas. D'avoir une lame qui fait 4 cm et votre baguette fait 4 cm aussi, vous avez un instrument qui fait 4 mètres de long, c'est compliqué de jouer dessus. Donc j'ai toujours des professeurs qui m'ont aidé par rapport à ça. Alors au tout début, j'ai fait des agrandissements de partitions de toutes mes méthodes pour pouvoir avoir des notes plus grosses. À partir de 2016, comme la lecture des partitions est devenue encore plus compliquée, j'étais allé faire un tour à Paris, comment ça s'appelle, le salon du handicap, pour voir ce qui existait comme appareil. Alors il y a des télégrandisseurs qui font des trucs qui pèsent 5 kilos et machin. Bon, c'était pas possible pour moi, mais en salle de percussion, on se déplace beaucoup d'un instrument à l'autre. Et enfin, j'ai trouvé l'iPad, alors je cite une marque, mais c'est comme ça, hein, qui m'a permis d'avoir un 12 pouces, 9. Et j'ai scanné toutes mes partitions, toutes mes méthodes. J'ai inversé le fond de mon écran est noir et l'écriture est blanche. Et ça permet d'avoir plus de contraste et de grossir le texte. Donc ça m'a sauvé la vie jusqu'en, on va dire, 2021-2022. Mais l'iPad commence aussi à avoir ses limites, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai demandé aussi des aménagements de poste à mes employeurs, entre guillemets. Donc ça se fait pas sans mal, sans difficulté. On passe par la médecine du travail pour faire avancer les choses. Voilà, donc je crois que je suis encore en, mon aménagement de poste est fait maintenant sur mes deux structures, mais j'ai encore de l'achat de matériel qui doit se faire pour que je puisse aussi faire mes missions administratives du festival. Parce que maintenant, j'y vois plus, moi, si c'est écrit au recto au verso d'une feuille. Donc, des fois, je suis obligé de demander à ma femme ou à mon fils de me lire ce qu'il y a sur une feuille, et c'est quand même pas normal, quoi. Donc, j'espère que l'aménagement de poste va se faire rapidement maintenant. J'ai toujours jusqu'ici trouvé des solutions dans ma carrière pour pouvoir faire ce métier-là. Parce que c'est vrai que quand on fait des concerts, on est dans les coulisses, il fait toujours noir ou sombre sur les scènes, et moi, j'y vois rien dans le sombre et dans le noir, hein, en fin de compte. Hein, c'est la rétine pigmentaire, en fin de compte, moi, c'est une rétine pigmentaire périphérique, c'est-à-dire que c'est le centre, enfin, la périphérie qui s'en va, et il me reste plus que le centre. Alors là, maintenant, comme je disais tout à l'heure, hein, moi, quand j'aperçois mes doigts quand ils sont à 5 cm l'un de l'autre, en fin de compte, hein, j'y vois plus du tout sur les côtés. Voilà, j'y vois comme dans un tube. Et mon acuité visuelle baisse de plus en plus. Hein. Il me reste à peine un œil, à peine deux à l'autre. Donc, même lire sur l'ordinateur, ça devient compliqué. Donc, j'utilise une synthèse vocale pour énoncer mes mails. Je mets ma souris sur le texte pour que ça puisse me lire, parce que moi, j'ai du mal à lire maintenant, même sur l'ordinateur. Mine de rien, il y a toujours des solutions. Bon, il faut les trouver ou les chercher aussi, hein, des fois. Alors, il faut s'acclimater à ça. C'est-à-dire qu'on met plus de temps aussi qu'une personne normale à lire quelque chose ou à les écrire. C'est vrai que moi, j'ai fait mes études. Quand j'ai passé mon bac ou en fac, j'avais droit à un tiers temps. Parce que je mettais plus de temps à lire et plus de temps à écrire. Par contre, quand vous arrivez dans la vie active et que vous avez un poste, vous faites le même boulot que quelqu'un qui est bien portant, entre guillemets. Vous êtes handicapé, mais vous devez faire le même boulot. Au départ, moi, je voulais un aménagement de temps, et en fin de compte, dans la fonction publique, ça ne se fait pas. Oui, il faut se débrouiller, entre guillemets, pour trouver des solutions, pour continuer, parce que moi, j'aime mon métier, hein, d'enseignant et de directeur artistique de festival, pour continuer à le faire, parce que moi, j'aime bien les choses bien faites. J'ai aussi fait des expériences, moi, en 2012, des premières lunettes à réalité augmentée. À l'époque, c'était des prototypes. Je suis dans un laboratoire là-bas, il y avait des scotch pour faire des tentatives de voir que là, d'essayer de lire un papier, enfin qu'il y avait une caméra, et on essayait, ça nous remettait de ce qu'on voyait dans la caméra dans le verre. Aussi des lunettes pour voir la nuit. Avant, il n'y avait pas le droit de faire de recherche dessus parce que c'était secret défense par rapport aux militaires, à l'armée. Donc le brevet avait été levé, donc il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Et puis là, je fais toujours aussi des parties d'un protocole là, qui, depuis 4 ans, là, qui vient de s'arrêter justement en septembre dernier, là, sur du développement de matériel pour justement, comme les personnes qui sont malvoyantes comme moi, au bout d'un moment de temps, quand vous lisez des lettres au fond de la salle, EFZ, ben nous, c'est plus assez précis pour savoir ce qu'il nous reste comme vue ou faire un champ visuel. Et là, on essaie de développer, enfin, on essaye, c'est une société qui s'appelle Street Lab pour essayer de voir ce qu'il nous reste, enfin, que ça soit plus flagrant, quoi, entre guillemets. Donc voilà, ça permet aussi de rencontrer des gens qui font de la recherche aussi. Donc c'est intéressant aussi d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice aussi, entre guillemets, quoi, modestement. D'essayer de faire avancer le fumier de lique pour les gens qui viennent contre cette maladie-là aussi, quoi.
Cette maladie-là, on vous l'a détectée alors que vous aviez 7 ans. Est-ce que vous avez très vite su la finalité de la maladie ?
Oui, oui. Parce que moi, j'avais 2 oncles qui sont décédés maintenant, mais qui ont eu cette maladie-là aussi. Moi, ça fait longtemps que je sais que ça finira mal, entre guillemets. J'essaie de profiter du peu qui me reste. À part conduire une voiture, dans ma vie, ça ne m'a pas empêché de faire du bateau, de faire du vélo. Alors, du vélo tout seul, je ne peux plus en faire. Bah, on a acheté un tandem et c'est ma femme qui conduit et puis elle ne s'empêche pas de faire du vélo. Avec la vue qui baisse, on fatigue plus aussi. Enfin, je sais que dans mes cours, c'est pour ça que j'ai demandé un aménagement de poste parce que je fatigue plus aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas gardé mes grands élèves parce que mes grands élèves, c'était des textes qui étaient assez longs. Je vois 4 baguettes, je ne peux plus le faire. Donc là, j'ai gardé que les élèves, en gros, les 2 ou 3 premières années. C'est des textes assez courts, donc je peux les mémoriser assez facilement. Les textes sont pas trop compliqués à jouer. Sur les instruments, on joue que sur une octave en clavier, donc c'est quelque chose que je peux encore faire. Donc ça permet aussi de continuer à travailler et puis de s'adapter, même si ma façon d'enseigner change un petit peu forcément. Quoi. Donc ça m'a un peu fait mal au cœur de lâcher mes grands élèves, mais à la fois c'était à la fois pour moi et pour eux aussi. Je finissais par être en difficulté devant mes élèves et c'était pas agréable. Quoi. Donc là, avec l'aménagement, là, ça devient quand même plus simple et ça me permettra de finir ma carrière tranquillement comme ça, en fin de compte, ouais. Moi, quand j'envoie mes dossiers à la région ou au département, je ne les écris plus, je les lis. Quand vous lisez une synthèse vocale, les fautes d'accord ou mêlée d'humaine, des fois, lui écrit mêlée, c'est écrit M-E-T-S et puis L-E-S, alors que mêlée, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, je prends le temps de relire, mais ça me prend beaucoup de temps aussi pour éviter d'enlever les fautes d'orthographe. Quand vous faites vos projets artistiques, c'est un pavé de 30 pages que vous écrivez. Je demande à ma femme de le relire. J'ai toujours mes oreilles, donc ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique et des disques. Donc pour faire le choix de la programmation, je ne suis pas gêné du tout par rapport à ça. Et puis après, sur le festival en lui-même, j'envoie toujours un mail maintenant aux agents pour que les musiciens soient au courant aussi, avant qu'ils arrivent à mêler. Comme ça, quand ils arrivent, ils ne sont pas surpris, s'ils ne me voient pas à l'aise quand il fait sombre sur scène. Il n'y a pas de malentendu ou autre chose comme ça aussi. Quoi. Jusqu'ici, cette vision qui s'en va ne m'empêche pas de faire mon travail. Même si j'y mets plus de temps, peut-être que des fois c'est pas évident non plus pour les gens de comprendre les choses, parce que c'est vrai quand je me déplace, que ce soit chez moi ou à l'école ou dans les écoles de musique où je travaille, je connais les couloirs par cœur, ça veut dire que même les yeux fermés, peut-être que c'est pas évident non plus pour les gens de comprendre ce que moi je ressens ou ce que je vois, ce que je vois pas ou ce que je vois plus justement. C'est pas forcément évident, donc parce que moi j'ai toujours essayé jusqu'ici d'être monsieur tout le monde. Moi. Quand les gens, des fois, on leur apprend ça, ils me disent que j'ai des soucis de vue et que si on n'était pas aperçu jusqu'ici, là, je me dis tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi à faire le taf comme quelqu'un qui était normal, entre guillemets. Et puis voilà, donc je ne peux pas dire que c'est un challenge, mais c'était mon envie jusqu'ici de tenir le coup. Et puis voilà, quoi. Je me dis que les gens, des fois, ils n'ont pas assez conscience de ce qui se passe sur cette manifestation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est des grands noms qui font les plus grandes scènes du monde et qui viennent jouer à Mêlée d'Humaine. C'est des gens comme Monty Alexander ou Mike Stern qui est venu cette année. Hein. C'est peut-être la seule fois de leur vie qu'ils vont venir en Mayenne. Et c'est le truc auquel on n'aurait pas pensé et qu'on arrive à faire à Mêlée d'Humaine. Donc, on a relevé le défi, on peut être fier de ça. Quoi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir rencontré les idoles des gens que j'écoute toujours d'ailleurs, hein, mais quand on avait 15 ans. Donc, c'est vraiment, on ne va pas dire que c'est un rêve qui se réalise, mais presque. Ouais.
Et alors, vous nous parliez de vos copains, de tout début, où vous retrouviez les samedis soirs pour jouer ensemble. Est-ce qu'avec ces copains, vous partagez ce moment-là, justement, du festival dans l'année ?
Alors, il y a certains copains qui sont venus jouer sur le festival hein, plusieurs fois, parce que c'est devenu aussi certains des musiciens de jazz confirmés. D'autres qui sont toujours restés dans la musique, mais pas forcément dans la musique de jazz. Alors qu'ils sont des fois partis à l'autre bout de la France, mais quand ils reviennent voir la famille, ils reviennent faire un petit tour au festival. Et puis c'est vrai que le fait d'être sur le week-end de l'Ascension, ce festival, c'est devenu aussi un lieu de rencontre. Il y a des copains que je revois une seule fois dans l'année. Et ben, c'est au festival de jazz. Alors moi, des fois, j'ai moins le temps de causer avec eux parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais on finit tard des fois le soir et puis on se prend un godet ensemble et puis on a toujours plaisir à se retrouver, quoi.
On a parfois le sentiment que la musique jazz, c'est une musique un peu élitiste, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas bien. Qu'est-ce que vous auriez, vous, envie de dire à quelqu'un qui n'a pas encore eu cette curiosité d'essayer, d'aller écouter, de se rendre à un concert, d'aller découvrir des artistes différents, des styles différents, puisqu'on a pu le dire, le jazz, c'est énormément de propositions, finalement.
Ben, c'est, en fin de compte, le jazz, il y a plein de courants différents. Comme on parlait tout à l'heure de free jazz ou de musique improvisée, c'est vrai que celui qui vient pour la première fois au festival de jazz et il tombe sur un concert comme ça, peut-être qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, il aura peut-être envie de repartir. C'est pas une musique qui est très facile à écouter. Par contre, dans les musiques de jazz, il faudrait prendre le temps de... Enfin, pas de faire une culture, entre guillemets, mais il y a des gens qui viennent depuis presque 28 ans maintenant sur le festival et en fin de compte, ils se sont formés à cette musique-là. Même ma femme, qui connaissait le festival avant qu'on se connaisse, était loin de se douter de tout le travail qu'il y avait derrière. Alors maintenant qu'elle voit l'envers du décor, elle voit ce que c'est en fin de compte, tous les tracas qu'on peut avoir aussi, hein, mes premiers cheveux blancs, comme je dis souvent, c'est peut-être le festival. Elle connaissait déjà cette musique-là parce qu'elle venait au festival avant qu'on se connaisse, mais maintenant elle a appris aussi à éduquer un peu son oreille. Il y a des concerts des fois qui sont un peu plus compliqués. Et je pense qu'il y a 20 ans, peut-être qu'elle serait pas venue écouter ce concert-là. Donc c'est vrai que dans les musiques de jazz, il y a plein de courants différents. Et puis il y a plein de métissage aussi avec les musiques du monde. C'est-à-dire qu'on a fait des trucs avec des styles drum. Le Miyo Komiyasaki, c'est du koto japonais, des koras africaines. Il y a plein de mélanges aussi avec les musiques du monde, musique du monde entier. Hein, on a fait des choses avec du blues de Colombie. On a fait des musiques d'Azerbaïdjan, du Vietnam. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Dans l'idéal, ça serait de venir faire tout le festival si vous pouvez, parce que comme ça permet de, comme à chaque concert, il y a un style différent. Il y en a forcément pour tous les publics. Il y a forcément un style qui va vous. Il y en a qui vont dire, moi j'aime pas le jazz, moi j'aime que l'électro. Ben, nous, des fois, on a fait des concerts d'électro-jazz. Donc là, on peut s'y retrouver. Et alors, ça veut dire que même quand on fait un concert d'électro-jazz, c'est pas forcément le public électro qui va venir en fin de compte. Alors, c'est ça qui est étonnant. On a fait des fois des concerts, aussi des hommages à Jimi Hendrix. Alors, forcément, les amoureux de Jimi Hendrix, ils ont adoré ce concert-là. Ceux qui étaient plus traditionnels dans le jazz, des big bands avec du ternaire, ben, ils ont moins aimé ce concert-là. Mais après, le but du jeu, c'est d'en avoir pour tous les goûts. Le but du jeu, c'est de susciter la curiosité des gens, de faire sortir les gens de leur canapé, de leur télévision, c'est pas évident. Hein. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis 28 ans sur le festival de jazz, à Melles, sur une musique de jazz, donc voilà, sur une musique qui est méconnue aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens la méconnaissent vraiment cette musique-là. C'est-à-dire que si on la voyait plus à la télévision, si on l'entendait plus à la radio, peut-être que les gens ils viendraient peu, se déplaceraient plus sur les festivals où ils écouteraient plus cette musique-là. Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ont une sensibilité musicale XY qui pourraient être sensibles à cette musique-là sans problème, quoi. Et puis après, il ne faut pas avoir peur aussi de faire confiance au musicien qui est sur scène et se laisser embarquer. Alors des fois, on rentre ou pas dans un concert aussi. Moi, ça m'est arrivé quand je suis allé voir des concerts à droite, à gauche, en musique improvisée, des choses un peu compliquées. Des fois, où on est fatigué et on est en moins bonne condition et on passe à côté du concert, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pour ça que moi, dans la programmation, quand je fais venir un groupe, j'ai plusieurs piles de disques, même si on en ressent moins maintenant, mais il y a des fois, Tigran Amassian, qui est un musicien arménien qui est venu chez nous en 2010 et 2011, qui fait maintenant une carrière internationale. Et à l'époque, moi j'avais vu des critiques sur lui, il y a certains critiques qui ne croyaient pas à ce gars-là, et c'est devenu l'un des plus grands pianistes du monde, ce gars-là. Et on a eu la chance de l'avoir deux fois chez nous, c'était inespéré. Et voilà, la première fois que j'avais écouté son disque, peut-être que j'étais fatigué, mais j'étais passé peut-être un peu à côté, mais j'avais mis dans la case à réécouter, parce que je me fais une case réécouter. Et ce disque-là, après, plus je réécoutais, plus on percevait plein de choses dedans, le potentiel qu'il y avait de ce pianiste. Et en fin de compte, je l'ai fait venir, et en fin de compte, ça a été un concert mémorable aussi sur le festival. Enfin, donc, on a le droit de passer des fois à côté d'un concert, mais il ne faut pas avoir peur d'être curieux et puis de retenter l'expérience.
J'aime beaucoup me dire que cette émission, c'est l'endroit où chacun peut venir raconter ce qui nous porte intimement, individuellement, ce qui nous fait vibrer tout particulièrement. Pour certains, ça sera plutôt le cinéma, pour d'autres, la littérature. Vous, c'est le jazz, vous avez le sentiment qu'à chaque étape de votre vie, le jazz a été présent et vous a peut-être justement porté vous-même, aidé.
Ouais, bah, même la musique en général, hein, parce que j'écoute énormément de jazz, et ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique classique, la musique extra-européenne aussi, musique du monde, ou d'écouter du Pierre Perret si veut, ou du Brel, ou du Brassens, enfin, je suis ouvert à plein de choses. Peut-être ce que j'ai moins écouté, comme je disais tout à l'heure, c'est à l'époque quand j'avais 15 ans, moi j'écoutais pas du rock'n'roll, c'est des trucs que j'ai fait jouer des fois à mes élèves après, du rock, du AC/DC, du Deep Purple, et j'ai commencé à écouter ces groupes-là quand, à l'arrière, j'avais 24-25 ans déjà, enfin, compte. Donc la musique en général, moi, c'est oui, comme je disais tout à l'heure, ça m'a peut-être sauvé la vie, moi, c'est la musique en fin compte. Parce que bah, des fois, c'est un bel échappatoire. Quand on l'écoute, ou quand on la pratique, quand on joue son instrument, on ne pense pas à ce qu'on a fait avant, on ne pense pas à ce qu'on va faire après. On est dans notre musique. Et c'est un bon échappatoire et ça fait beaucoup de bien aussi. Quoi. Et voilà, donc, la vie, c'est plein de choses. Et puis quand on peut trouver une passion comme ça, comme la musique, et que ça peut vous mener jusqu'à mes 53 ans pour le moment, ben, c'est formidable. Moi, je souhaite ça à tout le monde, en fin de compte, quoi, de trouver ça, ce qui vous convient, ce qui vous plaît le plus, et puis de donner tout ce qu'on peut pour défendre ça, entre guillemets, quoi.
C'est le grand format dans la JT. On commence l'agenda culturel de la semaine à Laval, au théâtre. Et je vais vous parler alors de la date du 28 novembre et de la pièce Gisèle Halimi, Une farouche liberté. Nous nous retrouverons au cœur d'un spectacle essentiel et fort en émotion. On reviendra sur la vie et les multiples engagements de la célèbre avocate franco-tunisienne. D'ailleurs, le titre vous dit probablement quelque chose puisque la pièce s'appuie sur le livre d'entretien Une farouche liberté, paru quelques semaines après la disparition de Gisèle Halimi en juillet 2020. Cette pièce raconte 70 ans de combat, ceux d'un destin d'exception, d'une vie entière au service de la justice et de la cause des femmes. De la jeune fille à la femme politique rebelle, ce sont tous les visages de la célèbre avocate qu'incarne avec force Inda Abdelaoui et Marie-Christine Barrault dans une mise en scène subtile et intelligente de Léna Pogam. Voilà, on pourra découvrir ces deux comédiennes porter sur scène une révolte nécessaire et une enthousiasmante puissance féminine. Un moment fort garanti le jeudi 28 novembre. Et on continue avec nos voisins du 6x4, on reste sur la même date, il faudra choisir, mais on est vraiment sur une autre proposition, puisque c'est bien sûr un concert qui aura lieu le 28 novembre et que nous propose le 6x4, mais c'est un concert qui aura lieu à la salle polyvalente, attention, pour accueillir une artiste que vous connaissez bien, il s'agit d'Olivia Ruiz. Alors si vous n'avez pas déjà pris vos places, eh bien il en reste encore, donc il est encore temps de vous faire plaisir ou de faire plaisir autour de vous. L'agenda culturel continue plutôt dans le sud Mayenne maintenant, et écoutez bien, puisqu'on vous parle de ce qui vous attend ce soir. Si vous n'avez rien de prévu, mais l'envie de sortir et de vous laisser surprendre, on écoute Maël Grenier, directeur du Carré, nous parler aux côtés de Christine Houdard.
Vendredi 22 novembre, nous nous retrouvons au Théâtre des Ursulines avec Mascarade, qui est une chorégraphie, une pièce chorégraphique de Cédric Cherdel, autour de la figure du carnaval. Comme souvent, en tout cas dans les créations chorégraphiques, il s'agit du rapport social, du rapport des individus, notamment dans leur isolement, leur unité, et leur rapport au groupe, comment on fait groupe, comment on fait société. Et là, Cédric Cherdel a pris la question du carnaval dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire la dimension débridée, la dimension contre-pouvoir, la dimension émancipatoire, sans limite, pour triturer la question sociale, c'est-à-dire du rapport de l'individu au groupe. Et donc ça donne des écritures totalement étonnantes. Ils naviguent entre le corps et la voix, là aussi, ils se permettent d'aller un peu plus vers la voix, alors qu'il s'agit de 5 danseurs, dont ce n'est pas particulièrement la discipline de prédilection. Mais Mascarade est un moment vraiment très drôle. C'est un spectacle drôle, presque sans parole, puisqu'il s'agit juste de sons qui sont évoqués, enfin qui sont formulés, il n'y a pas de langage. Mais c'est un langage parfois surréaliste, un langage en tout cas très, très libre pour parler de l'exclusion, pour parler du groupe, pour parler de la présence dans une société. C'est totalement étonnant Et j'ai été séduit en tout cas par le ton, par l'ironie, par le côté acidulé de cette création, très légère, très pop. Il y a quelque chose de très pop dans cette création. Et là aussi, je pense que ça parlera aux jeunes. Et il se trouve que les costumes ont été créés par Micha Derrider, qui est une artiste plastique, une artiste des arts visuels, qui est aussi installée en région Pays de la Loire. Donc là, on se retrouve à la croisée des arts visuels et de l'art vivant. Donc c'est un chouette moment à partager.
Et du coup, on profite justement que ce soit Micha Derrider qui ait créé les costumes du spectacle pour proposer un atelier avec elle. C'est une artiste qui travaille beaucoup autour du textile et donc là, elle propose un atelier autour du crochet. Donc, s'initier au crochet et fabriquer des masques à partir de la technique du crochet. Donc ça, c'est un rendez-vous tout public à partir de 15 ans. Et ce sera le lendemain du spectacle.
Et donc on termine cet agenda au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe et ce sera le mardi 26 novembre. Alors cette date attise la curiosité, je crois que c'est la garantie d'un vrai bon moment à partager. Mais écoutez plutôt Roland Bouchon, directeur du théâtre, il en parle bien mieux que moi.
Si vous avez des amis qui n'ont jamais mis le pied dans un théâtre, je pense que La Claque, ce spectacle de théâtre musical, est vraiment fait pour vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans un théâtre ou vous connaissez quelqu'un et vous ne savez pas trop ses goûts. Et voilà, c'est vraiment la pièce qu'il faut aller voir pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça reste une comédie, donc un théâtre musical, où les trois protagonistes sur la scène vous racontent une histoire, je vais y revenir, chantent, font de la musique et aussi font un spectacle qui interagit avec le public. Donc on ne peut pas rester indifférent et on va être même acteur de ce spectacle-là. Donc il y a vraiment ce côté participatif qui est intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un théâtre qui a pour vocation de vous divertir, mais qui a aussi pour vocation de nous apprendre des choses. Et La Claque, la thématique de ce spectacle, est basée sur une réalité de nos théâtres en France dans la moitié du 19e siècle, où chaque théâtre à Paris et en province payait ce qu'on appelle une claque, c'est-à-dire des personnes qui venaient applaudir, huer, rire, pleurer, en fonction de ce qu'elles voyaient sur la scène. Et cette claque faisait ou défaisait le succès d'une pièce ou cassait en direct un tel comédien ou comédienne. Donc, c'est vraiment une réalité qui existait. Donc, c'est assez marrant d'essayer de se projeter dans cette époque-là. L'histoire, c'est que Fred Radix, qui est sur scène et qui écrit cette pièce, vient dans le théâtre et s'aperçoit qu'il n'a pas sa claque, que même si elle était payée à l'époque, eh bien, il n'a personne. Et là, il ne peut pas commencer le spectacle sans qu'il y ait la claque. Donc il va interpeller le public, il va nous interpeller pour nous dire bah, « c'est vous qui avez fait la claque » et il va nous expliquer comment le faire. Et ensuite, le spectacle commence. Donc c'est un spectacle qui divertit et où on apprend beaucoup et on sourit. Et c'est un théâtre tellement assez accessible que vous ne prenez aucun risque pour faire découvrir ce qui est un théâtre et comment marchent ces codes en venant voir La Claque.
Voilà, l'agité du local s'arrête ici. Vous venez d'écouter Le Grand Format, c'est chaque vendredi dans cette émission. Merci beaucoup à Jeff Landau pour ce très beau moment de confiance et de partage. Cette émission s'arrête maintenant, mais dès 19h, vous pourrez écouter l'émission Dance Hall Social Club qui sera suivie à 20h de Tempus Fugit avec différents styles musicaux allant de la pop-rock brute de décoffrage au psyché hard ou encore de la musique des 70s. Voilà pour aujourd'hui ce qui vous attend, mais on regarde un petit peu ce qui va se passer ce week-end quand même. L'émission Rock Dreams, samedi à 13h, fait un focus sur le groupe Ted Nugent et là on est sur plutôt du hard rock. Ensuite, attention, tenez-vous bien puisque dimanche à 19h c'est le retour de L'Ennui et au lit, une émission particulièrement appréciée sur l'autre radio qui fait son grand retour pour notre plus grand plaisir. Et comme chaque dimanche, le week-end se termine sur l'autre radio avec l'émission Jazz Attitude, n'hésitez pas à allumer le poste à partir de 21h si Jeff Landau aujourd'hui vous a donné envie de découvrir un peu plus le jazz. Je vous parle un tout petit peu très rapidement de la semaine prochaine puisque ce sera avant que l'on se retrouve lundi. Donc lundi matin à 9h30, ce sera une émission spéciale diffusée en direct de Nantes. Vous avez peut-être entendu parler des coupes budgétaires que la région annonce via Christelle Morancet. Eh bien, cette émission sera donc en direct de Nantes pour évoquer cette thématique-là. Soyez au rendez-vous. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, profitez de votre week-end, appelez un ami, dites-lui quelque chose de sympa, passez un moment ensemble ou bien restez seul si c'est ce qui vous tente. En tout cas, profitez du week-end et s'il vous plaît, je vous le dis chaque jour, faites-le bien.
c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.